Chapitre 55. 24. Ils étaient cinq. Cinq à avoir franchi la porte du pont-levis. Louponera, évidemment, ainsi que Sabi et Valère, et Alix et Zizo. Seulement cinq, pensait Zizo. Déjà cinq, pensait Alix. L'ancienne reine traça cinq petits traits dans la terre, du bout de la semelle de sa basket. Cinq résistants face à 300 enfants, debout, immobiles, de l'autre côté des douves. Combien d'entre eux les avaient crus ? Se demanda Alix en passant d'un visage à l'autre. Qui avait-il convaincu ? Leurs accusations contre Génor devaient paraître tellement délirantes. Peu importe, Alix se sentait soulagée. Si légère d'avoir tout révélé, elle portait ses secrets depuis des années, se sentant presque complice des manœuvres de son ancien conseiller. Aurait-elle dû parler avant ? Comment savoir ? En comptant ceux qui s'avanceraient, qui franchiraient le pont-levis ? Combien en auraient le courage ? Combien sauraient surmonter leur peur ? Combien sauraient écouter ce qu'ils devinent, ressentent forcément dans leur cœur ? Akane fut le premier à fondre la foule, qu'il dominait d'une tête, paraissant nager dans une marée humaine. Les visages se tournaient vers lui, impressionnés par sa détermination, même si personne n'était surpris par sa décision. Ses bottes frappèrent les planches du pont-levis quand il franchit les douves. C'était un colosse, le plus puissant de tous les combattants, qui quittait les forces libres. Combien oserait le suivre ?
Plus jamais seul !
Ce furent les uniques mots qu'Akane prononça. Dès qu'il passa sous la porte du pont-levis, Sabi se jeta dans ses bras, embrassa ses cheveux noircis, son visage de suie, lui murmura des secrets à l'oreille, se cacha dans son épaule pour que tous les jaloux au pied du donjon ne la voient pas pleurer. Sabi n'allait pas leur offrir ce plaisir. Akane et Sabi restèrent ainsi, à les défier de tout leur amour, beaux, indomptables et inséparables. Alix traça un nouveau trait. 6. Sous la passerelle, la foule s'écarta de nouveau. Cette fois, ce fut Liu qui, en boitant, s'avançait vers la sortie. Le contraste avec le géant qui l'avait précédé était spectaculaire. Le ministre des Inventions se retourna dès qu'il posa son pied sur le pont-levis. Il s'appuya sur sa jambe droite pour soulager son genou blessé, redressa ses lunettes rondes et s'adressa à la foule.
Je rejoins Louponera au nom de la science. Le progrès doit servir les hommes, pas les détruire. Je refuse de devenir, moi aussi, un apprenti sorcier.
Il chercha dans l'assemblée le regard des autres savants, espérant les convaincre de changer de camp. Lunella sortit des rangs.
Je le refuse, moi aussi.
Elle se posta à côté de Liu, saisit sa main gauche, et tendit la droite en direction des autres scientifiques dispersés au milieu de l'armée. Il fallut de longues minutes avant que deux autres savants, Braza et Osman, osent eux aussi s'avancer. Le pilote et le cartographe avaient hésité, mais leur complicité avec Solario, née des expéditions partagées, était trop forte pour qu'ils puissent rester les bras croisés après ce qu'Alix avait affirmé. Ils acceptèrent la main tendue de Lunella et attendirent que de nouveaux savants s'avancent. Tous espéraient qu'au moins Cléa et Solveig, les marins du Solario, les rejoignent, ou Coriolis, le météorologue. Mais ils ne bougèrent pas. Liu planta longtemps ses yeux dans ceux de Pastor et Moebia, les deux scientifiques qu'il estimait le plus, des adolescents intelligents, compétents, intègres. Mais ils détournèrent le regard, gênés. Les accusations étaient trop énormes. La majorité des savants ne parvenaient pas à accepter que Marie-Lune, qui leur avait tout appris depuis qu'ils étaient nés, puisse être à l'origine d'un projet aussi monstrueux. Ou que derrière les lunettes en demi-lune de Génor qui les avait délivrées des griffes de Mordelia, puisse se cacher un être encore plus dangereux. Liu adressa un sourire à Pastor, Moebia et aux autres savants de son pavillon. Il avait travaillé avec eux, chaque jour, depuis plus de 10 ans. Ce sourire signifiait que, même s'il ne partageait pas son avis, il ne serait jamais ennemi, du moins il l'espérait, et que l'estime mutuelle qu'il se portait résisterait aux futurs affrontements entre les deux camps. Il essuya une larme au coin de ses yeux bridés. Le pavillon des savants, c'était toute sa vie. Puis, entraîné par Lunella, franchit avec Osman et Braza la porte du pont-levis. Alix traça 4 traits supplémentaires. 10. Dès que Lunella dépassa le pont, elle lâcha la main de Liu pour attraper celle de Sabi et d'Alix. Les 3 adolescentes se positionnèrent côte à côte, fières, libres, défiant la foule silencieuse.
Les Lolly Girls!
Cria soudain Sabi.
Avec nous!
Aussitôt, Estive, Leonarda, Cheyenne et Suzy bondirent de 3 pas en avant et esquissèrent une petite révérence en direction d'Alix.
Nous sommes vos mousquetaires, Majesté, pour vous servir.
Elles coururent rejoindre leurs amis. Leurs rires insolents résonnaient étrangement au-dessus des douves, alors que chacun se taisait au pied du donjon. 14, comptait Alix.
Attendez-moi!
Cria une voix. Wayne, tenant fermement son chapeau sur sa tête, courait rejoindre Cheyenne.
Je ne reste pas là sans toi, ma petite indienne!
Derrière lui, quelques chuchotements moqueurs bruissèrent, comme toujours, quand un garçon s'incrustait dans le club des Lolly Girls. Un trait de plus. 15. Ce n'était pas assez, pensa Alix. Pas seulement 15, il se ferait massacrer. Elle n'arrivait pas à croire qu'il ne puisse être que 15 à ouvrir les yeux, à se lever pour résister. Étaient-ils tous devenus aussi peureux? À qui avaient-ils peur de désobéir? À Augenor? À leur ministre? Elle repéra le chignon d'Isalis, grossièrement redressé après la décoiffante bataille. Avec l'aide de Soutim, elle surveillait de près son troupeau d'artistes pour qu'aucun, à l'exception des incontrôlables Lolly Girls, n'ait l'envie de rejoindre cette mutinerie. Elle faillit pourtant en tomber à la renverse en voyant Olympe et Minerva s'avancer. Tête baissée, n'osant regarder ni leur ancienne déléguée, ni la bande de résistants qu'elle rejoignait. Après la bataille, plusieurs soldats de l'armée de libération les avaient prises à partie, leur collant sous le nez les feuilles de chou qu'elles avaient rédigées pour l'ordre nouveau et les prévenant « Tout va se payer, on réglera les comptes quand tout sera terminé ». En dépit de leur légendaire stupidité, Olympe et Minerva avaient compris qu'elles seraient plus en sécurité parmi ces résistants inespérés. Mieux valait rejoindre ces Lolly Girls, qu'elles avaient pourtant toujours détestées, plutôt que de finir dans un cachot de la conciergerie, ou de s'enfuir loin de Paris comme l'avaient fait les Ombrageurs, Pépin le Moineau ou King Bill. Elles franchirent le pont-levis sans quitter des yeux leurs bottines en peau de lézard verni. Alix traça 2 traits supplémentaires. 17. Elle aurait préféré les effacer. Elle n'avait aucune envie d'accueillir ces 2 collabos capables de changer de camp plus vite qu'une abeille change de marguerite. Elle aurait largement préféré le soutien de Coco la couturière ou de Tiphaine la bijoutière. Elles avaient toujours été proches des Lolly Girls, mais pourtant, visiblement, les adolescentes préféraient leur confort à un affrontement avec Augenor. 17. Conta Alix. Était-ce déjà terminé? L'adolescente commençait à désespérer quand elle aperçut une silhouette ronde marcher vers eux. Rouler aurait d'ailleurs été plus exact. Le nouvel allié avançait tel une boule parmi les ados aussi immobile que des quilles. Il était le dernier qu'elle ait pu imaginer quitter le château. Alix se frotta les yeux, mais le mutin continuait de s'avancer vers le pont-levis, sûr de lui. Honora, le cuisinier, d'un pas assuré, franchissait les douves. Derrière lui, la foule, atterrée, murmurait des «
Qui va préparer les repas? Qu'est-ce qu'on va manger? Arrêtez-le !»
Un instant, Alix se surprit à rêver que tous les autres ados, poussés par la gourmandise, suivent la décision de leur cuisinier. Mais non, l'emprise de Génor sur leur cerveau était malgré tout supérieure à celle d'Honora sur leur ventre, et aucun ne bougea. Presque aucun. Honora n'avait pas encore passé la totalité du pont-levis que déjà Philao, le jardinier et son meilleur ami, couraient derrière lui. Sans se poser de questions, Florentine, l'amoureuse de Philao, avec qui elle formait le couple le plus tendre de tout le château, le suivit. « Vain !» se réjouit Alix en gravant 3 nouveaux traits dans la poussière de la terre. Et pas n'importe qui. 3 très belles prises. Flo était une bonne combattante, la plus sympa de tous les soldats. Et avec les légumes de Philao, couplés au savoir-faire d'Honora, les résistants auraient au moins une certitude réjouissante. Ils mangeraient bien et à leur faim.
Attendez-moi ! Cria une nouvelle voix.
Cette fois, tous crurent réellement que la terre tremblait. Un éléphant chargeait. Gulo Gulo, qui pour fêter ses 17 ans avait pris plusieurs kilos, sprintait autant qu'il le pouvait. Pour la première fois depuis la fin de la bataille, on entendit quelques vrais rires. Tous connaissaient la devise de l'ado le plus gourmand du château. « Là où Honora va, Gulo Gulo va !»
Une bouche de plus à nourrir, pensa Alix. Et une sacrée bouche.
De l'autre côté des douves, des pleurs succédaient aux rires. Matifou, le guitariste, avait lui aussi décidé de les rejoindre, mais la séparation avec Cladrix et Abou, les deux autres musiciens de New World, paraissait déchirante. Matifou avait toujours été le plus fou des trois. Il sortait avec Suzy, la plus jolie voix du château. Le plus célèbre groupe de musique du Nouveau Monde n'avait pas d'autre choix que de se séparer. Et pour beaucoup, c'était la pire nouvelle de la journée, comme une partie de leur enfance qui se déchirait. Matifou, les yeux enlarmés, traversa le pont-levis en quelques enjambées sans se retourner. 22. Plus personne sous la passerelle ne bougeait. Augénor demeurait silencieux, impassible à chaque nouvel ado qui rejoignait les résistants. À 22 contre 300, le rapport de force lui restait incroyablement favorable. Alix pestait, tout comme Zizo près d'elle. Il restait pourtant bien d'autres ados à convaincre. Zizo était parvenu à capturer les yeux de Constel, mais la journaliste ne paraissait pas décidée à bouger. Elle le fixait, avec un regard complice et une expression de défi, comme pour leur faire comprendre que son rôle serait plus utile de ce côté du pont, du côté de ses lecteurs. Augénor avait promis que la presse resterait libre. Combien de temps pourrait-elle tenir? Depuis plusieurs minutes, personne d'autre ne s'était manifesté. En haut de la passerelle, Augénor toussa pour s'éclaircir la voix.
« Bien !» fit-il. « Je crois que tout le monde a eu le temps de mûrir son choix. »
Il se tourna vers la porte du donjon, et tous comprirent qu'il allait relever le pont-levis afin de séparer définitivement les deux camps. Anticipant son geste, Akan avança d'un pas. Il se posta entre les deux lourdes chaînes et regarda fixement Jean d'Arc et Vanille, côte à côte, sous l'ombre d'un drapeau du grand cerf. Le géant du tipi connaissait bien les deux ministres. Il avait siégé avec eux, au conseil, pendant 3 ans. Avant cela, il avait grandi avec Vanille, la chef d'orchestre du tipi. Une petite tige blonde si ambitieuse, mais si compétente aussi. Une fille sincère, soucieuse des autres, sans aucun a priori sur les ethnies, uniquement intransigeante sur le mérite de chacun. Tout l'inverse d'Isalis. Il ne connaissait Jean d'Arc que depuis la bataille de la Cour Carrée, mais bien que combattant dans deux camps différents alors, il avait appris à l'apprécier. Akan ne voulait pas s'en faire un ennemi. Jean d'Arc était un soldat droit, courageux, obéissant. Tout l'opposé de ce calculateur fourbe d'Augénor. Il continua de les supplier du regard, espérant qu'ils comprennent qu'Augénor se servait de leur qualité et que leur fidélité à l'empereur était une erreur. Les deux ministres finirent par détourner les yeux. Jean d'Arc leva aussitôt la tête vers la passerelle. Ses soldats s'étaient rassemblés autour de lui.
« Grand cerf !»
déclama-t-il.
Vous pouvez compter sur mon entier soutien. Mes soldats et moi serons toujours au service des forces libres, tant qu'il s'agira de protéger un monde de paix et de progrès.
Tout se serait dire au garde-à-vous.
Vous pouvez également compter sur le mien,
ajouta Vanille avec solennité.
Si vous l'acceptez, je mettrai l'ensemble de mes compétences et celles de mes employés au service du Troisième Empire, afin qu'ils puissent prospérer dans un monde où chacun, quelle que soit sa naissance, sera libre de travailler, d'entreprendre et de s'enrichir. »
Augénor les remercia d'un imperceptible mouvement de canne et d'un discret signe de tête.
« Vous n'allez pas être déçu, » grinça Alix. « Comment ces deux ministres peuvent-ils être aussi naïfs ?»
Elle remarqua qu'Isalis, vexée que le rôle des singes dans le Troisième Empire n'ait jamais été cité, s'apprêtait elle aussi à s'exprimer, ainsi que Rick, le commandant des primitifs. Augénor, la main posée sur son épaule ensanglantée, souhaitait pourtant abréger la cérémonie. Un ordre invisible commanda le pont-levis. Les chaînes de fer se tendirent et la porte commença à remonter. Avant qu'il ne soit trop tard, que les 22 rebelles ne se retrouvent définitivement isolés, trois derniers ados sortirent du rang. Agnel tenait la main de Mano, qui tenait celle de Diamante. Tous les trois marchaient à pas lents vers la porte qui se relevait. Alix devinait qu'ils avaient longtemps hésité, qu'Agnel avait dû faire preuve de diplomatie pour convaincre les deux gitans de rejoindre les résistants plutôt que de poursuivre leur chemin, loin, très loin. Il avait dû leur faire comprendre que ce troisième empire les rattraperait où qu'ils soient. Les trois ne se pressaient pas.
« Dépêchez-vous !» fulminait Alix. « Le pont va se fermer !»
Anne ne les apercevait déjà plus qu'à moitié. Diamante, surtout, ralentissait le groupe, alors qu'Agnel entraînait les deux gitans. Mano paraissait tiraillé entre son amoureux et sa sœur de cœur. La porte était presque entièrement relevée, et ne l'avait toujours pas rejointe, quand l'inexplicable se produisit. Diamante embrassa Mano sur la joue, puis, vif comme l'éclair, lâcha sa main et fit demi-tour. Ses pieds nus firent voler un peu de poussière avant qu'elle ne se perde dans la foule. Alix eut juste le temps d'apercevoir le grand sourire d'Eugénor sur la passerelle et ses contorsions grimaçantes pour suivre des yeux la course de l'agitante. Mano se pétrifia.
« Diamante !»
Agnel ne lui laissa pas le choix.
« Viens !»
Avec l'agilité d'un rapace, Agnel planta ses ongles dans le pont-levis à la verticale. Mano le suivit. Ils escaladèrent juste assez vite pour basculer de l'autre côté, avant que la porte du château ne se referme dans un vacarme assourdissant. 24.